Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Construire une maison ou un immeuble, un étage attire de plus en plus des Congolais et la même parfois des personnes qui désirent élever en hauteur un bâtiment déjà existant qui a déjà été construit. D'après les spécialistes, cela est bien possible, mais il y a des précautions à prendre et surtout des normes à respecter. Je le disais en sommaire de cette émission, on va découvrir tout cela avec notre invité Eric Nguilo Makombela, qui est ingénieur civil de construction. Si vous avez des questions, le numéro d'appel c'est le 081 800 63 94. Eric Nguilo Makombela, c'est certainement, vous l'avez déjà à le remarquer, c'est à Kinshasa, j'imagine, bien dans d'autres grands centres urbains à travers le pays. Ouais. Il a cette espèce de boom, hein, des constructions de maisons en étage, mais on peut pas construire un étage n'importe comment. Alors, si on, avant d'aborder, d'entrer dans les vues du sujet pour parler des normes, des précautions à prendre pour un bâtiment qui est déjà construit, de manière générale, lorsqu'on veut construire un étage, et quelles sont les précautions à prendre ou encore les normes à respecter?
Alors, merci M. Marcel pour votre question. Alors, comme dans toute démarche, oui, rationnelle, il y a des normes à respecter, comme vous venez de le dire. Et dans notre domaine d'ingénierie, il y a des normes qui sont en vigueur internationalement ou dans chaque pays, selon le cas, pour faire des immeubles en hauteur. Et donc, ici, nous devons dire qu'il y a, comme pour le médecin, parce que je voudrais faire vraiment une analogie, hein, parce que le médecin, c'est quelqu'un qu'on voit tout le jour, les gens sont habitués à ça, contrairement aux ingénieurs, et pendant que c'est la même chose, je voudrais vraiment faire une analogie. Quand vous avez un problème d'infrastructure, de génie civil, comme c'est le cas des immeubles ici, il faut consulter un médecin, et le médecin, dans notre cas ici, c'est l'ingénieur civil de construction, pour toute infrastructure de génie civil. Et c'est là, c'est passe dans une entité qui est agréée. Et après ça, vous exposez le problème. Le problème ici, dans notre cas, c'est comment faire l'extension d'un immeuble qui était pour un niveau donné à une hauteur bien définie qui est supérieure. Vous posez le problème et le médecin qui est l'ingénieur dans ce cas, il va passer à des examens au laboratoire. Il va faire ce qu'on appelle des auscultations. Il y a des appareils de plus en plus sophistiqués pour faire ce genre de choses, de manière à déterminer comment le bâtiment a été fait. Et c'est après ça qu'il y a des calculs qui seront faits, de manière à déterminer la capacité portante de cet immeuble, sa capacité d'extensibilité.
Et il y a des immeubles. Est-ce que déjà au départ, lorsqu'on veut construire une maison, un bâtiment, un étage, on peut déjà consulter un ingénieur civil déjà au départ, avant, parce que bien souvent c'est on va voir les architectes, hein.
Alors exactement, peut-être qu'il y a confusion encore à ce niveau-là. Oui. Il faut voir un architecte, bien entendu. Il faut voir un architecte, bien entendu, parce que l'architecte, il fait la beauté de votre bâtiment. Oui. Alors après, l'architecte pourrait être votre conseiller et vous envoyer chez un ingénieur de structure. Parce que de cette beauté architecturale, l'ingénieur va sortir le système porteur du bâtiment. Il va extraire les éléments qui vont travailler dans la stabilité du bâtiment. Et il va rendre l'architecture en structure. Et c'est la structure qui supporte le bâtiment. Et ça, c'est pas le travail de l'architecte. L'architecte aura fait tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de génial, mais l'ingénieur doit amener ça pour que ça soit réel, pour que ça soit faisable. Et donc, il y a vraiment une part de choses à faire dans ces deux cas.
Alors, là, puisqu'on parlait de lorsqu'on veut, on a déjà un bâtiment qui est déjà construit. Ouais. Prenons le cas d'un bâtiment qui était prévu pour un étage ou deux étages. Ouais. Et maintenant, on se dit, bon, j'ai un peu plus de moyens, je voudrais arriver jusqu'au cinquième niveau. Alors là, la première chose à faire, c'est quoi? Qui sont d'abord les précautions à prendre?
Alors, il y a deux cas dans ce problème-là. Oui. Le premier, c'est que déjà, l'immeuble peut avoir été dimensionné pour être extensible dans le futur.
Ah, ça, c'est déjà possible au départ.
Ça, c'est déjà possible au départ, vous savez, parce que l'immeuble, toute œuvre, tout projet a un cycle de vie. Et le cycle de vie, c'est tout le temps pour lequel l'immeuble sera encore en service. Et donc, vous pouvez dire, aujourd'hui, j'ai des moyens assez limités, mais ingénieur, je voudrais, dans le futur, parce que je pense que dans 2 ans, 5 ans, je pourrais avoir assez de moyens, mais je voudrais déjà faire un immeuble de 10 étages, mais pour l'instant, je peux me limiter à 5 niveaux. Et déjà dans le calcul, parce que nous verrons que le bâtiment, il fonctionne par gravité. On descend des charges de haut vers le bas. Ça veut dire tout ce qui est en bas supporte les charges de ce qui est en haut. Et donc, quand vous ajoutez, il faut vous assurer que ce qui est en bas va supporter cette charge. Et donc, dès le départ, si l'ingénieur est au courant de vos intentions dans le futur, il peut déjà dimensionner votre immeuble pour être extensible à 10
niveaux. Mais là, il faudra déjà dire à l'ingénieur, on peut aller jusqu'à quel niveau.
Exactement. Ah,
c'est-à-dire
il faut dire. Enfin, pourquoi j'ai dit il y a 2 cas. Ça, c'est le premier cas. Mais le plus souvent, c'est pas ça. Le plus souvent, c'est le 2e cas où vous faites un immeuble, vous dites, ingénieur, je veux faire un immeuble de 2 niveaux. Et puis, à la fin, après 2 ans, 3 ans, vous avez assez de moyens, vous dites, non, je veux qu'il aille à plus de niveaux. Ça, c'est le 2e cas et c'est le cas peut-être le plus courant, malheureusement. Mais ce n'est pas encore un problème parce que il y a des solutions à ça. Oui. Et comme je disais, ça passe par un examen. Vous consultez l'ingénieur, vous posez votre problème, il va faire une batterie d'examens. Il y a plusieurs moyens de faire, il y a plusieurs appareils au laboratoire, il y a des scanners aujourd'hui de plus en plus sophistiqués qui donnent au fait ce qui a été exécuté. Pas nécessairement ce qui avait été prévu, parce que ce qui est prévu n'est pas nécessairement ce qui est exécuté. Mais là, nous avons ce qui est exécuté. Et à partir des calculs inverses, nous pouvons identifier la capacité d'extensibilité de ce bâtiment. S'il en a, il peut ne pas en avoir. Et s'il n'en a pas, on peut diagnostiquer des méthodes de renforcement adéquates pour nécessairement aller en hauteur.
Et là, quand on parlait de renforcement, il faut d'abord commencer par renforcer quoi? Il faut renforcer la fondation, les colonnes, qu'est-ce qu'il faut renforcer?
Exactement. Tout ce que vous citez là, ce sont des éléments des structures.
Oui.
Hein, parce que nous sommes partis de l'architecture, l'enveloppe, mais l'ingénieur déduit la structure. Et la structure, nous avons les fondations, nous avons les poutres, nous avons les colonnes, nous avons les dalles, les murs et tout ça. Alors, c'est après diagnostic, c'est après l'auscultation que nous verrons quel élément doit être renforcé. Nécessairement, si tous doivent être renforcés, ils seront renforcés. Et c'est tellement délicat, c'est plus facile à construire que de renforcer. Voilà pourquoi il est important que le client, c'est lui qui a ce projet, passe nécessairement par l'ingénieur civil qui, lui seul, est habilité à faire ce genre de calcul.
Donc, retiens, déjà, il y a 2 cas de figure. Le premier cas, c'est-à-dire déjà au départ, vous avez eu à consulter un ingénieur civil. Exactement. Vous lui avez parlé de votre projet, peut-être avec le temps, si vous avez des moyens d'essayer de tendre des bâtiments. Si c'était, par exemple, dans un premier temps à 2 étages, vous pouvez aller jusqu'à 5 étages. Ça, vous en parlez déjà à l'ingénieur civil. Alors, le deuxième cas, vous avez dit qu'il est le plus courant, c'est on construit déjà. Et après, lorsqu'on a un peu plus de moyens, on s'est dit, bon, en tout cas, là, il me faut avoir un peu plus d'étages. Là encore, il faut encore une étude plus approfondie pour s'assurer que il n'y a rien à craindre. Mais est-ce qu'elle peut arriver aussi pour certaines formes de construction telles que ça a été fait, c'est pas possible. Il y a aussi des cas comme ça, ou bien il y a toujours moyen, lorsqu'on a vu un ingénieur civil, de pouvoir répondre un peu aux sollicitations du client par rapport à ce qu'il veut faire de son bâtiment.
Alors, rien n'est impossible à l'ingénieur. Oui. Nous le voyons de plus en plus à travers le monde, des infrastructures aussi incroyables. Rien n'est impossible, mais vous savez, tout projet implique un coût, implique un délai, et implique une qualité. Alors, dans tout ça, rien n'est impossible, mais le coût peut être plus élevé. C'est juste ça. Mais sinon, rien n'est impossible. Ça demandera seulement plus de coûts, peut-être un peu plus de délai. Mais rien n'est impossible à l'ingénieur.
Quelles sont les normes à respecter lorsqu'on veut, on désire élever en hauteur un bâtiment déjà construit? Voilà le sujet abordé au cours de ce magazine Okapi Service avec notre invité Eric Nguilo Makombela, qui est ingénieur civil de construction. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Gaël qui appelle de Lubumbashi, Maître Gila Douga qui est à Kinshasa. Donc si vous venez de vous joindre en eux, vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas. Le numéro, c'est les 0-81-890-63-94.
c'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Gaël nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Gaël.
Oui, bonjour Marcel Ngombo, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, quelle est votre question Gaël?
Oui, j'aimerais juste poser la question parce que j'irai toujours par la même analogie que l'invité vient d'épingler. Il nous a parlé de... Il a épinglé, donc il a fait l'analogie entre la médecine et aussi la construction. Alors, parce qu'aujourd'hui, la médecine se fait de plus en plus entendre par les gens, mais la construction, elle n'est pas du tout vraiment connue de gens. Parce que vous allez comprendre avec moi que si aujourd'hui on a besoin de construire un immeuble à deux niveaux, à trois niveaux, on a besoin de consulter un maçon que de consulter un architecte ou un ingénieur. La population ne connaît pas du tout un architecte c'est qui, un ingénieur civil c'est qui. Alors, j'aimerais juste poser la question maintenant à l'invité si il pourra me dire quels sont les mécanismes, quels moyens qu'il ensemble avec tous les architectes, tous les ingénieurs civils, ils peuvent mettre pour que la population connaisse aussi ce que c'est l'importance d'un architecte, d'un ingénieur civil. Parce que vous savez très bien qu'avec les maisons à hauteur, ça attire aussi pas mal de gens. Ça favorise aussi le tourisme. Vous allez, comme nous qui sommes ici à Lubumbashi, pas mal de gens visitent le golfe. Parce que là, il y a des maisons en hauteur. Mais pour ceux qui résident dans des milieux reculés, il n'y a pas beaucoup d'activités. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup d'attirance. Alors, c'est ça la question. S'il pourra quand même m'expliquer par rapport à ça. Merci beaucoup.
Merci Gaël depuis le Lubumbashi. Maître Guilain Douga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour maître.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute maître. Quelle est votre question?
D'accord. J'ai suivi votre invité Eric dans la présentation par rapport au thème du jour. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, parce qu'il a essayé de parler d'une manière globale, tantôt il parle de l'ingénieur, tantôt il parle de l'architecte. Mais je voulais aborder le sujet du point de vue juridique. Parce que quand je prends le droit de la construction, ici je voulais qu'on dégage ensemble avec lui qui est l'auteur de l'œuvre, hein, de l'ouvrage. Parce que ici je voulais beaucoup plus mettre l'accent sur la responsabilité au cas où, par exemple, il y a des vues. Parce que je voulais savoir, est-ce l'ingénieur ou bien c'est l'architecte? Parce que la responsabilité incombe au maître de l'ouvrage. En d'autres termes, je voulais savoir qui est le maître de l'ouvrage. Est-ce l'architecte ou bien l'ingénieur?
Voilà, merci maître Guilain Douga, merci d'appeler de Kinshasa. Eric, voilà, Eric Ngilo aussi, on y va d'abord avec Gaël qui a appelé de Lubumbashi. Dit le médecin, c'est pas compliqué, hein, tout le monde sait où on peut aller voir un médecin, mais les ingénieurs civils ou encore les architectes, c'est ça le problème. Alors souvent, on va voir le maçon du coin, parce que bon, on ne sait pas où il faut aller voir un ingénieur civil de construction, encore un architecte. Alors il dit, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître davantage de la population?
Ok, merci à Monsieur Gaël pour cette question. Donc, si je comprends bien, c'est le mécanisme de sensibilisation de la population.
Exactement.
Pour que aujourd'hui nous ayons de moins en moins de clients qui recourent à des maçons plutôt que à des architectes ou ingénieurs. Ça veut dire ici, c'est l'autorité qui doit nous aider. Déjà, il fait des efforts dans ce cadre-là. Il y a des autorisations de bâtir qui doivent être octroyées pour chaque personne qui veut ériger un immeuble. Ça doit être octroyé. Et avec ces autorisations de bâtir, il y a des vérifications, parce que pour avoir des autorisations, vous déposez vos plans, vous déposez votre projet et tout ça. Le projet doit être étudié, certainement par des gens compétents, donc ingénieurs, pour faire la structure, architectes pour voir l'implantation dans l'environnement de l'immeuble. Et donc, je veux plutôt me focaliser sur ingénieur. Donc, ingénieur pour faire le calcul des structures. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre ingénieur pour avoir ce qu'on appelle l'ordre d'ingénieur congolais. Et c'est imminent avec tout ce qui se passe. Alors, dès que cette autorisation est demandée par les clients, les autorités amènent à un bureau compétent pour faire la vérification des structures. Et cette vérification ne peut être valable qu'avec la signature d'un ingénieur qui est agréé par l'ordre. Avec ça, je pense que personne ne va ériger un immeuble sans passer par cette procédure-là. Et de plus en plus, les gens comprendront qu'il faut passer par ça et le travail se fera de lui-même. Donc, je pense que c'est le mécanisme qu'il faut.
Oui, mais pour l'instant, vous travaillez comment, enfin, les ingénieurs, vous avez des bureaux de consultance où les gens peuvent venir vous consulter. Pour l'instant, comment ça se passe au niveau des ingénieurs civils des constructions? Surtout pour ceux qui veulent les consulter.
Alors, pour ceux qui veulent consulter, comme pour le médecin, nous avons dit, il y a des hôpitaux qui sont agréés. Pour les ingénieurs, il y a des bureaux d'ingénierie qui sont agréés, notamment l'Agence congolaise de grands travaux à travers sa direction des études. C'est un grand bureau d'ingénierie. Et donc, tous ceux qui ont l'information peuvent venir consulter là-bas et ils sont sûrs de trouver des gens compétents pour prendre en charge leurs problèmes.
Alors, pour revenir à la question de Maître Guilain Douga qui a appelé de Kinshasa sur le maître d'ouvrage, c'est-à-dire entre l'architecte et l'ingénieur civil de construction. Et c'est qui le maître d'ouvrage? C'est-à-dire quand il arrive à un problème et à qui incombe la responsabilité?
Alors, merci Maître Guilain pour votre question. Je m'irai d'abord, avant d'y répondre, aller définir c'est quoi le maître de l'ouvrage et c'est quoi le maître d'œuvre. Alors, le maître d'ouvrage, c'est le client, c'est le propriétaire de l'œuvre. En fait, de l'ouvrage. C'est lui qui veut faire construire, on l'appelle maître d'ouvrage. Alors, celui-là, il va chercher une personne à qui il va demander de lui faire son ouvrage suivant les règles de l'art, suivant la norme, suivant la gestion de projet, coût, délai et qualité. Et c'est cette personne qui va charger de cette mission qu'on appellera maître d'œuvre. Alors, selon qu'il tombe sur un architecte, c'est cet architecte qui sera le maître d'œuvre. Selon qu'il tombe sur un ingénieur, c'est cette personne-là, ingénieur, qui sera le maître d'œuvre.
On peut travailler avec les deux aussi.
On peut travailler avec les deux aussi. Mais de toutes les façons, on tombe d'abord sur un, et c'est l'autre, c'est le premier sur qui on tombe, qui va, suivant les règles de l'art, chercher l'autre pour ce qui concerne sa tâche. Parce qu'il y a deux tâches, la tâche d'architecture et puis la tâche d'ingénieur, comme on a décrit. Donc l'un ou l'autre peut se retrouver dans une casquette de maître d'œuvre. Et c'est celui-là qui aura toute la responsabilité en cas de ruine de bâtiment.
Voilà, on va poursuivre avec notre auditeur. Il s'agit d'Olivier Olangui qui nous appelle de Kisangani. Olivier, bonjour. Olivier, vous êtes en ligne. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, c'est le journaliste. Bonjour, notre invité du jour.
Allez-y, Olivier, quelle est votre question?
Oui, je commence par un constat. Il arrive des fois que les conditions requises pour construire un immeuble en étage ne sont pas respectées. Et que si après, il y a eu effondrement de l'immeuble, comme c'est sur les cas à Kinshasa, j'aimerais bien savoir si il y a des dispositions juridiques qui sanctionneraient de tels actes. Et si tel est le cas, qui poursuit soit l'ingénieur, le propriétaire de l'immeuble ou quoi. C'est un peu ça la vision.
Voilà, Olivier, nous avons en face de nous un ingénieur dont il n'est pas un juriste, mais peut-être qu'il pourra peut-être voir comment essayer de satisfaire à votre préoccupation. Mais vous avez suivi, il a éclairé par rapport à la préoccupation de Maître Guilain qui a appelé qui a appelé de Kinshasa sur le maître d'œuvre. Il peut s'agir soit de l'architecte ou soit de l'ingénieur civil. Donc en cas de problème, c'est à celui qui a été qui est considéré comme maître d'œuvre qui va incomber la responsabilité. Voilà, il pourra compléter après. Merci à Olivier d'avoir appelé de Kisangani. Papi à Ouezeyo, vous êtes à Dungu. Bonjour papi.
Oui, bonjour, 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 journaliste de la Radio Capi. Je vous écoute.
Vous êtes déjà en ligne, allez-y, papy. Quelle est votre question?
Ok, j'ai trois petites préoccupations que je voulais poser à l'invité. Ici, j'ai l'ingénieur architecte et l'ingénieur qui travaille à l'autorisation de bâtir est ingénieur constructeur. Alors, dans notre milieu, on a un peu de difficulté, surtout il y a un ami qui a passé en paravala. Il a dit que l'ingénieur, quand il est en train de recevoir le plan, est-ce que l'ingénieur architecte peut déjà donner des calculs de cette structure ou c'est l'ingénieur constructeur qui est maintenant mieux placé pour donner les calculs de structure? Et pour maintenant donner l'autorisation de bâtir, il faut consulter l'ingénieur ou bien l'ingénieur qui travaille pour l'autorisation de bâtir. C'est ça un peu ma préoccupation.
Voilà, merci Papi Awizeyo depuis Dungo. Ingénieur Eric, qu'est-ce que vous dites à Papi?
Alors, avant de répondre aux trois préoccupations de M. Papi, peut-être faire un clin de réponse à M. Olivier.
Ah oui, tu dis qu'il est revenu,
exactement, qui est revenu un peu dans sa deuxième partie. La première partie étant juridique, j'y répondrai pas. À la deuxième partie de M. Guilin, qui disait à qui incombe la responsabilité en cas des ruines de bâtiments. Et vous lui avez déjà répondu en disant que c'est au maître d'œuvre. Et nous avons dit le maître d'œuvre, c'est la personne à qui on, le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, confie la responsabilité de mener à bien l'ouvrage qu'il veut ériger. Alors nous avons dit ça peut être un architecte, ça peut être un ingénieur, selon le cas, selon la personne sur qui le maître d'ouvrage tombe. Mais quand nous parlons architecte-ingénieur, ne voyez pas nécessairement un individu. Ça peut être un cabinet d'architecte, ça peut être un cabinet d'ingénieur, ça peut être une entité en soi. Donc ça c'est la première chose que je voudrais dire, et voilà. Et donc maintenant je peux essayer de répondre aux préoccupations de Monsieur Papi. Alors l'autorisation de bâtir, c'est une entité suivant l'organisation d'un pays à un autre qui doit octroyer l'autorisation de bâtir. Mais il y a tout un processus derrière cet octroi, et ce processus passe nécessairement par la vérification des plans que vous avez déposés à l'entité. Et nous avons dit et nous le redisons, l'architecte fait la beauté de l'immeuble. Il fait tout ce qui est incroyable à l'immeuble. Mais le calcul passe inexorablement par l'ingénieur civil. Et l'architecte sait qu'après toute la beauté qu'il fait, il fait des choses qui parfois n'ont jamais été faites. Mais il doit passer par l'ingénieur et ils doivent travailler ensemble de manière à ce que l'ingénieur fasse le calcul organique de tout ce qu'il a fait comme architecture, et c'est ça qui sera érigé. Donc, Monsieur Papi, c'est comme ça, l'entité octroie des autorisations de bâtir, mais dans le processus, derrière, il y a un cabinet d'ingénieur ou un ingénieur civil, personnellement, qui fait la vérification de calcul de l'immeuble.
Alors prenons pour le cas qui nous concerne sur des bâtiments déjà construits. Alors à ce moment, parce que là, comme vous l'avez dit, il faut absolument consulter un ingénieur civil des constructions. L'architecte peut déjà demander comment on veut modifier le bâtiment et puis voir qu'est-ce qu'on peut donner comme beauté. Et à ce moment-là, l'ingénieur civil de mener même des études pour voir si c'est possible, même par rapport...
Exactement, exactement.
Est-ce que des fois, vous arrive de travailler vraiment en symbiose, non?
Nous travaillons toujours en symbiose.
Et ça se passe bien?
Ça se passe très bien. Ça se passe très bien.
Voilà, il y a un autre auditeur qui est en ligne, c'est ingénieur... Ah voilà, ingénieur Crispin qui nous appelle de Goma. Ingénieur Crispin, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capi.
Ah, on s'écoute, ingénieur Crispin.
Oui, je vous appelle, je voulais juste savoir, par exemple, s'il y a un problème qui se passe au chantier, qui doit en prendre? Oui, ça va, je vous écoute. Qui doit prendre le responsabilité, que c'est le patron ou c'est l'ingénieur?
Décidément, c'est une question qui revient, ça c'est vraiment important. C'est la seule question que vous avez, ingénieur Crispin?
Non, d'autres questions parce que ça concerne.
Allez. Oh, il n'est plus en ligne, ingénieur Crispin. Désolé pour lui. En fait, on a il est revenu sur c'est qui a été déjà la préoccupation des auditeurs qui l'ont précédé sur la responsabilité. Est-ce que c'est possible d'avoir le maître d'œuvre, c'est-à-dire que les deux à la fois, c'est-à-dire et l'architecte et l'ingénieur civil de construction. Et c'est possible parce que là, les gens veulent bien savoir à qui incombe la responsabilité lorsqu'il y a un problème se pose.
Ouais. Oui, mais Monsieur Marcel, à un moment, j'ai dit que le maître d'œuvre pouvait être une entité,
un bureau d'ingénieur
ou un bureau d'architecte, mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre, dans le bureau d'architecte, il y a des ingénieurs. Dans le bureau d'ingénieurs, il y a des architectes. Et donc, il est possible que ce maître d'œuvre soit les deux, mais tout au sein d'une entité, d'une entreprise, qui est le maître d'œuvre.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de maisons basses? On voit des fois aussi des maisons basses qu'on veut détruire et puis construire à hauteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire de maisons basses? Parce que des maisons, comme vous avez dit, des maisons avec un ou deux étages, c'est peut-être que déjà au départ, les propriétaires avaient parlé à l'ingénieur que c'est possible. Ouais. Mais pour des maisons basses, on peut construire une maison basse et puis et après chercher à le modifier en étage, à modifier cette maison en étage.
Oui, la procédure est la même. Oui. La procédure est la même. Il faut passer par des mesures, des examens, une auscultation de cette maison basse, hein, voir ce qu'elle a comme capacité de surcharge. Et si elle n'en a pas, il faut renforcer. Si elle en a, tant mieux, on détermine quelle capacité elle peut prendre, un étage ou deux, ça dépend. C'est vraiment des calculs qu'il faut faire, mais qui passent d'abord par une auscultation, des examens bien approfondis.
Est-ce qu'on peut dire que le plus important, c'est d'abord la fondation, c'est ça? Parce que tout repose sur la fondation.
Bien sûr, par gravité, nous avons dit le système porteur fonctionne. Oui. Et donc, tout le poids de l'immeuble, il est pris par la fondation. Donc, la fondation, il est très important. Il est très important. Peut-être signalons aussi que passer par un ingénieur, passer par un architecte, hein, est moins coûteux pour le client. Parfois, il pense que passant par un maçon, il économise. Mais en réalité, il n'économise pas. Donc, passer par un architecte, un ingénieur, c'est plus économique que passer par un maçon. C'est
ça peut vous épargner d'éventuels désagréments. Alors,
exactement. Oui, ça peut vous épargner des éventuels désagréments qui vous coûtent très cher. Mais même pendant la construction, moi, j'ai remarqué à Kinshasa que, par exemple, prenons juste un exemple des poutres, hein, dans les bâtiments. Il y a généralement 6 barres qui mettent dans les poutres. Mais 4 barres sont placées au-dessus et 2 barres en bas. Pendant que la poutre demande plutôt l'inverse. Et vous voyez que les 4 barres sont perdues pour le maître d'ouvrage, pour le propriétaire. Il achète 4 barres qui ne fonctionneront pas.
Si vous voulez bien aider les gens à comprendre qu'on parle de poutre, c'est au niveau de la construction, c'est où on utilise le poutre?
Alors, il y a des colonnes. Oui. Les colonnes sont des éléments verticaux. Et il y a des poutres qui sont des éléments horizontaux. Exactement. Oui. Et donc, les poutres, ils fonctionnent par la fibre inférieure. Et donc, c'est par là qu'il y a la traction dont les barres sont censées reprendre. Et donc, placer les barres au-dessus, c'est les gaspiller inutilement. Et donc, le client, il achète 6 barres comme ça, dont 4 sont gaspillées. Il a perdu son argent inutilement.
C'est un constat que vous avez à faire.
C'est un constat qu'on fait partout, on passe partout, c'est comme ça. Et il pense avoir des poutres très renforcées, mais ces poutres ne tiennent que par 2 barres.
Il a perdu beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez bien rester seulement à 2 barres.
C'est à 2 barres. Il pouvait acheter que 2 barres. Maintenant, il en achète 6. Il croit avoir une poutre renforcée, mais il a une poutre à 2 barres seulement. Il a une capacité faible, une probabilité de ruine assez élevée, et il gaspille beaucoup d'argent, donc. Ils doivent réfléchir à 2 fois.
On va prendre la parole à Nassor Mouissa qui nous appelle de Kindou. Bonjour, Nassor.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capu et à l'invité aussi. Hein.
Ok, merci.
Oui, par rapport à la thématique, je suis vraiment trop raffiné, je veux juste poser une question à l'invité. Et ma question est celle-ci. Vous savez, aujourd'hui, avant de construire une maison, il y a des services de l'État qui passent là-bas, des environnementalistes. Ils viennent pour vérifier si cet endroit peut vraiment... être bon pour la construction. Est-ce que ces problèmes, on ne peut pas dire que ce sont ces gens-là qui sont à la base de l'État, hein, le service de l'État? C'est ça vraiment ma question par rapport au sujet du jour.
Voilà, merci Nassor Mouissa depuis Kindou. Alors lui, il évoque les services de l'environnement, les services également de l'habitat, et d'après lui, il estime qu'ils font pas toujours bien leur travail. En principe, avant d'avoir l'autorisation de bâtir, il y a des enquêtes qui sont menées.
Exactement, les enquêtes sont menées parce qu'il y a un plan directeur. Un plan directeur qui veut que dans ces secteurs, il y ait des bâtiments de tel type.
Oui.
Dans un autre, des bâtiments de tel type. Et donc, les services de l'État doivent veiller à ce que les plans que vous présentez soient conformes au plan directeur de la ville. Et donc, l'implantation de votre immeuble doit respecter d'abord le type de bâtiment amené à être érigé dans ça. Alors, dire que c'est eux qui sont responsables, non, eux ne sont pas responsables. Dans la mesure où vos plans et vos calculs doivent être faits dans les règles de l'art. Ça, c'est pas. Alors, ils seront responsables s'ils n'ont pas fait vérifier ces plans que vous leur avez donnés. Ils l'ont pas fait vérifier et ils ont donné juste une autorisation de bâtir. Et à la fin, on a une ruine. Là, ils sont responsables parce que ils auraient dû faire vérifier ça par un service compétent d'ingénierie.
Alors, quand vous êtes en face d'un client qui et vous estimez que c'est qu'il vous propose de construire un bâtiment, et par rapport à l'état du sol, par rapport à l'environnement, tout, c'est pas conforme, mais le client insiste parce que lui veut que ça soit comme ça. Et en pareil cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est qu'il faut faire, c'est courant. Ça veut dire déjà, le client n'aime pas faire des investigations de sol.
Oui.
Il n'aime pas, il trouve que c'est de l'argent perdu. Le maçon lui dit, on a déjà fait ça à gauche, ça a tenu. Il ne veut pas faire ça. Mais l'ingénieur doit être ferme. Il ne s'engage pas. Et dans le système dont nous avons parlé, où tout doit passer par une autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir doit faire des vérifications. Et donc, ce client-là, dès que l'ingénieur est ferme, il fait pas de service. Il signe pas. Et donc, en ne signant pas, il cherchera un autre ingénieur et ainsi de suite, il n'en trouvera pas, il n'aura pas d'autorisation de bâtir, il sera hors la loi.
Ah donc c'est important d'être ferme pour
il faut être ferme
parce que lorsque le dégât arrive à ces moments on se dit qu'au départ on pourrait bien éviter cela.
Exactement.
Donc on retient que c'est important lorsque vous voulez d'abord construire un immeuble de consulter. Exactement. Soit un architecte ou encore un ingénieur civil.
Ouais.
Qui va essayer de mener des études pour voir si c'est possible de construire les bâtiments tels que vous les souhaitez. Et ce qui est également important, c'est de dire déjà à l'ingénieur civil que peut-être avec les temps, si j'ai de moyens, je vais chercher à étendre le bâtiment. Comme ça, l'ingénieur pourra déjà prendre des précautions. Mais vous avez dit, ce qui est malheureux, les gens n'aiment pas souvent consulter et se disent les honoraires, c'est tellement cher. Est-ce que c'est vrai, là, ce problème des honoraires, chez les architectes comme chez les ingénieurs civils?
Non, nous avons
des constructions, oui.
Tout calcul fait, tout budget fait sur le cycle de vie. Le maître d'ouvrage, il prend beaucoup d'argent. Il dépense beaucoup d'argent en ne prenant pas un service spécialisé. C'est de l'automédication. Vous achetez un médicament qui ne fonctionne pas, qui fait des effets collatéraux, vous devez encore en acheter d'autres, ainsi de suite. Et quand vous consultez le médecin, il vous donne le médicament maintenant qui doit résoudre tous les problèmes que vous avez créés. À la fin, ça vous coûte très cher. Plutôt que d'aller voir un médecin, dès le début déjà, il vous donne l'aspirine pendant que ça ne coûte pas autant cher que ce que vous avez pu dépenser avec l'automédication préalable que vous vous êtes vous-même imposé. Donc à la fin, quand vous voyez tout, certainement il y a des honoraires, mais prenant tout ça dans le budget, ça ne vaut pas ce que vous dépenserez à la fin, avec les maçons qui vous font dépenser 4 barres au lieu de 2, et ainsi de suite. Et quand vous faites la sommation de tout ça sur un immeuble de 30 niveaux, c'est des sommes astronomiques. Voilà.
Et là, c'est regrettable.
Exactement.
Alors, pour renforcer, parce que vous avez insisté sur ça, j'aimerais vraiment qu'on y revienne, pour renforcer la fondation. Généralement, quand on parle de renforcer la fondation, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il y a beaucoup de méthodes de renforcement.
Oui.
Là encore, il est question de diagnostiquer le type de sol, la fondation qui a été mise en place, comment elle est, et tout ça. Et donc, le renforcement dépendra de tout ça. Parfois, on renforce même le sol lui-même. Et donc, renforcer les fondations, il y a plusieurs types de renforcement. Ça peut aller à faire ce qu'on appelle un radier général, pendant qu'il y avait juste des semelles isolées. Ça dépend de ce que d'abord on veut faire comme extension. Ça dépend de tout ça. Donc il y a beaucoup de méthodes et voilà, ça peut aller de moins cher à plus cher.
Parce que des fois, on voit des endroits où on rase tout, tout complètement. Ouais. Pour tout recommencer, ça c'est plus rassurant.
Ça peut être plus économique de le faire. Oui. Donc c'est à l'ingénieur de vous dire, voilà, dans ce cas, plutôt que de renforcer, il vaut mieux raser, parce que ce renforcement peut coûter plus cher que le bâtiment existant. Donc c'est tout ça, cette optimisation qu'il faut faire.
Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter par là. Eric Nguilo Makombela, nous rappelons que vous êtes ingénieur civil de construction et superviseur des études de voies terrestres à l'Agence congolaise de grands travaux ACG Tensic. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir comme invité dans ce studio pour aborder cette question sur le norme à respecter lorsqu'on désire élever en hauteur un bâtiment déjà construit. Merci, on espère vous retrouver prochainement.
Merci, merci Marcel. Okay.